Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Médial Ganafi, ça va bien et toi?
Fraîchement,
ma foi.
Enfin, il fait froid.
L'hiver commence.
Et
fin novembre.
Le TGS approche, donc c'est normal que le froid arrive.
C'est le marqueur pour nous. Quand le TGS débute, c'est qu'on commence à se peler sévèrement.
Bon, mais on va en parler dans quelques instants. Alors, dans ce Red Alert, on va commencer cette semaine avec le retour de la chronique Top 10 All Time. Ben ouais, à l'occasion de la sortie récente de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Il est temps pour moi de revenir sur l'un des chefs-d'œuvre de Kojima. Oui, mais lequel? Bon, vous avez cliqué, donc vous savez, vous avez vu la miniature. Mais bon, je fais un peu de teasing. Puis, dans la seconde partie de l'émission, Nico, tu nous parleras des Game Awards avant les Game Awards. Dans cette chronique, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, tu vas pas nous expliquer comment ça fonctionne, parce que ça, on l'a déjà fait.
Tu l'as déjà fait pour nous, il y a quelques années.
Il y a 120 émissions.
Je croyais te dire, il y a 120 ans.
Non, il y a 120 émissions, c'est le Red Alert 125.
Okay.
Et c'était le Red Alert 5.
Putain, ça de nous rajeunit pas.
120 émissions, c'est quand même pas mal. Mais donc, du coup, tu vas nous révéler ce qui se cache derrière les nominations. Quel enseignement pouvons-nous tirer déjà des jeux nommés? Vous retrouvez, bien entendu, l'interlude top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur. Ah non, cette semaine, pas de retour sur, mais un point actu. On a 2-3 trucs à vous dire. Parce que notamment, cette semaine, là, vous nous écoutez si vous êtes un early écouteur, vendredi.
Mm-hmm.
Et donc dès demain, nous serons à Toulouse pour le TGS, le Toulouse Game Show.
Ouais, bah le salon local hein, auquel on participe depuis les débuts. Donc ça se passe samedi et dimanche. Donc c'est au Parc des Expos de Toulouse, le nouveau, le Mythe, qui est un peu loin, mais qui est super cool. Mmh. Il y a plein d'invités super, je sais plus lesquels, parce qu'on s'y intéresse pas trop.
on va accueillir Clément Drapeau pour son livre L'Attaque des Titans.
Ah oui, non, je parlais des invités du TGS, les notes, je les connais.
Ah bah, ouais.
Vas-y.
Bah, Clément Drapeau pour la... Oui. Attends, non, un grand invité du TGS.
C'est Christopher Lloyd, Doc Brown de Retour vers le futur notamment.
C'est vrai encore.
Un invité
tout le temps là.
Je sais pas mais.
Donc ouais, non je me souviens pas les grands invités, mais les grands invités sœurs. Donc c'est voilà. En l'occurrence Clément Drapeau pour son livre L'Attaque des Titans, Thomas Meyer AMAV pour son livre Assassin's Creed et Patrick Helio pour son ouvrage là sur la Nintendo 64.
Ouais.
Chacun de ces invités aura une conférence dédiée par rapport à son bouquin. Donc je l'ai dit, L'Attaque des Titans, la N64. Et Assassin's Creed.
Ouais.
On va vous donc là si on est vendredi donc on vous a déjà tout balancé toutes les informations sur les réseaux sociaux, les horaires
ouais,
tout ça.
Voilà, par contre voilà, on sera là pendant 2 jours avec notre stand, il y aura toute l'équipe de Sœur donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Carrément.
Si vous voulez faire dédicacer des trucs voilà,
Damien sera là
évidemment.
Si vous voulez dédicace absolument tous les livres. Aussi nous sommes vendredi donc c'est le début du Black Friday. Donc un Black Friday qui est dédié au JRPG, ça tombe bien parce que les dernières nouveautés de l'année, les deux dernier livre de Sœur de 2023
oui
sont voilà dédiés à Final Fantasy VII Remake et un livre sur le genre JRPG. Et donc voilà, les premiums vous pouvez dès à présent les commander et les recevoir, et on a décalé un petit peu le Black Friday pour que voilà les premiums puissent en une seule commande profiter des promos du Black Friday et prendre les nouveautés.
Sympa quand même.
Sachez que voilà dès jeudi prochain ces deux livres, FF7 Remake et JRPG seront disponibles pour tous.
C'est vrai.
Et Black Friday, attention, il finit à
dimanche soir
à 23h59.
Voilà.
Donc c'est une sélection de 16 livres sur le JRPG, donc dédié au JRPG. Donc là, plutôt stylé.
Plutôt stylé. Et si vous êtes plutôt fan du futur de l'électronique et des versions numériques, donc des e-books, ça sera plutôt lundi que ça va se passer, comme d'habitude, le Cyber Monday.
Le Cyber Monday. Et si vous nous regardez en vidéo, vous êtes quelques-uns, hein, vous avez répondu à la question de la semaine dernière, qui était pourtant en fin d'émission, je pensais que personne n'écoutait jusqu'à la fin. On vous a demandé, voilà, si, est-ce que vous étiez plutôt un auditeur ou un spectateur des Red Alert. Voilà, on a eu pas mal de réponses. Donc si vous regardez là, en l'occurrence, en version vidéo, vous pouvez voir derrière nous les versions First Print des livres Final Fantasy VII Remake et JRPG.
Exclus.
Qui n'ont pas encore été dévoilés. Donc ça a quand même pas mal de regarder sur YouTube
voilà.
Ou sur, je sais pas pourquoi je prends une voix de
vieux. Écoute, je vais aller chiquer du tabac.
Je sais pas, sur YouTube du tout. Parce que c'est pour les vieux. Peut-être, je ne sais pas.
Perforos.
Voilà, donc pas de retour sur, mais un point actu, un peu plus bordel. Hein,
voilà.
On recommence à faire des retours sur. On est un petit peu plus tenu. Allez, c'est moi qui commence. Je garde le micro pour la rubrique Top 10 All Time, qui est à présent connue mondialement.
Mondialement.
Et bon, pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes, je vais rapidement vous résumer le truc. Mon objectif ici, c'est de refaire mes 10 jeux préférés de la vie, ceci pour les confronter à mes souvenirs et à la réalité du marché actuel. L'idée, c'est aussi de faire évoluer ce top, de bouleverser ce qui pourrait être gravé dans le marbre et peut-être briser mes vieilles certitudes, ou de les consolider, on sait pas. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est de porter un regard nouveau sur des jeux et des œuvres qu'on pense connaître par cœur. Nico, est-ce que tu as remarqué que cette intro est la même?
Cette fois, oui.
Bon, j'ai changé un mot. Mais ouais, non, c'est la même. Mais bon, la prochaine fois, ça sera peut-être dans longtemps, donc je la garderai. On verra si vous en souvenez ou pas. Donc, Metal Gear est dans l'actu avec la collection Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, qui regroupe les trois premiers MGS, mais aussi les deux épisodes MSX, et même le désavoué Snake's Revenge. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Metal Gear Solid 1. J'ai reterminé l'aventure dans sa version PS1 avec le jeu de l'époque en physique sur une télé pas cathodique et franchement j'ai perdu la vue et j'ai relancé la version HD. Bon, j'ai pas retrouvé la vue, j'ai pas reterminé le jeu, mais c'était un petit peu juste pour voir un petit peu comme ça. Alors qu'est-ce qui m'a marqué en 2023 lors de cette énième nouvelle partie de MGS? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors déjà j'ai réalisé que MGS c'était le dernier épisode d'une trilogie, la trilogie Snake, hein, Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake et Metal Gear Solid. Bon ça je le savais hein, quand même j'espère. Mais bon, avec le recul et avec les nouveaux termes qui ont émergé, je me suis dit qu'en fait Metal Gear Solid c'était au réel une sorte de soft reboot, un terme qui n'existait pas en 98 mais qui colle plutôt bien aujourd'hui avec ce qu'était le projet de l'époque. Alors un soft reboot, c'est le recommencement d'une histoire mais qui n'efface pas les épisodes du passé. On reste dans la continuité mais on retconne pas, comme on dit pour utiliser un autre anglicisme. Un exemple de soft reboot c'est Star Wars 7, souvent celui qu'on prend. Alors pour cet épisode, les 6 premiers films existent et sont canon, mais alors même qu'il est une suite, Le Réveil de la Force reste une bonne porte d'entrée avec des nouveaux héros, une nouvelle histoire, mais une structure narrative qui est similaire au premier film. Metal Gear Solid, c'est carrément ça. Les deux jeux MSX, ils restent canon, mais l'épisode Solid est une nouvelle porte d'entrée pour un nouveau public. Et comme pour Star Wars, les ficelles des premiers jeux sont repris à l'identique. À tel point qu'on pourrait dire que Metal Gear Solid, c'est un soft reboot, mais c'est aussi un remake. D'ailleurs, MGS, c'est l'épisode qui a connu le plus de remakes de la série. MGS, c'est déjà une sorte de remake de Metal Gear 2. Même structure, même idée culte. Hein. Donc, toutes les idées cultes, la boîte, le code derrière la boîte, les mines, il y a tout.
C'est juste qu'on n'avait pas joué au jeu MSX, en fait.
Exactement. Donc, c'est une sorte de remake, déjà, de Metal Gear 2. Metal Gear Solid Twin Snake, c'est le remake de Metal Gear Solid sur GameCube, avec une nouvelle vision, alors non pas du gameplay, mais des cinématiques. Mais il y en a encore un, c'est Metal Gear Solid 2. En fait, c'est aussi le remake de Metal Gear Solid. Mais lui, c'est le remake façon FF7 remake avant l'heure. C'est un remake qui est inclus dans le scénario des jeux. MGS2, c'est une sorte de grande reconstitution de Metal Gear Solid dans laquelle Raiden est manipulé pour reproduire les événements de Shadow Moses. Le processus de création du remake entre dans la diégèse du jeu. Comme FF7 remake, en fait. Mais c'est encore plus subtil et surprenant parce que MGS2, c'est une suite et porte pas l'appellation remake. Ce qui, commercialement, est une bonne chose, car si FF7 remake s'était appelé FF7-2, il aurait eu, je trouve, moins bien marché, un moins bon accueil critique, parce que l'appel de nostalgie serait moins là. Après, est-ce que c'est triste, en 2023, un remake excite plus qu'une suite? Je sais pas, c'est bizarre.
C'est toi, ça. Les vieux joueurs.
Non, mais ça, tu trouves, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que s'il s'appelait FF7-2, il aurait plus,
Oui, non, c'est toujours pareil. C'est que, c'est un certain âge, on devient nostalgique. Effectivement, la recréation de souvenirs un peu fantasmés devient plus intéressante que la découverte de nouveaux souvenirs.
Et MGS2, dans sa structure, qui est finalement un remake hyper intelligent de MGS1.
Ça, c'était le coup de génie de l'époque, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et Kojima, il est rentré un peu dans, il fait partie des meubles aujourd'hui, mais faut se rappeler quand même, dès le deuxième épisode MSX, en fait, hein, tous les coups de génie qu'il y a eu dans chaque épisode. Et Metal Gear Solid 2, ça reste, c'est pour ça que ça reste mon préféré de l'époque PlayStation, parce que c'était le plus fou, le plus innovant, le plus risqué aussi.
Oui. Mais je trouve qu'aujourd'hui, à posteriori, on pourrait prendre Metal Gear Solid 2 comme un vrai remake, comme FF7 remake, tu vois, ils sont vraiment...
Ouais, alors on pourrait en parler profondément, mais c'est vrai qu'on va pas trop y rentrer dedans au cas où les gens veulent découvrir ça par eux-mêmes, mais il y a quand même quelques petites nuances, mais je vois ce que tu veux dire.
Parce que dans FF7 remake, il y a pas de nuances.
Si, mais bro.
Tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. Que dans le fait que c'est dans la diégèse, c'est compris, c'est un remake intelligent qui est en fait une relecture qui est compris dans le scénario. Et à l'époque, je trouve pas qu'on l'a pris par ce prisme-là. Et aujourd'hui, en 2023, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'est juste qu'il a fait ça intelligemment, avec les outils qu'il avait à l'époque, sans pour autant le vouloir. Alors, MGS, c'est un jeu de légende, mais étrangement, c'est un jeu qui a été très peu copié. Alors, c'est quand même chelou, hein, car absolument tous les grands succès, et quel que soit le média, ciné, BD, série, tous sont imités. C'est normal, hein, c'est le sens de l'histoire, mais MGS, pas trop. Alors des clones de Zelda, de Minecraft, d'Animal Crossing, de Smash Bros, il y en a des tonnes, mais pas MGS. Il y a eu des tentatives, mais le plus souvent, c'était uniquement du marketing. On nous faisait croire à un MGS, mais hors du giron de Sony. MGS, c'était une exclue PS1. C'était le cas de Headhunter, le MGS de la Dreamcast, qui est aussi sorti sur PS2.
Il y a que toi qui l'appelais comme ça, je pense.
Non. Il était vendu comme ça à l'époque.
C'était comme, Hybrid Heaven.
Alors, moque-toi, c'était le cas d'Hybrid Heaven, une exclue N64, mais qui n'avait au final rien à voir, et je suis désolé. Et pour avoir relu des tests récemment de Hybrid Heaven, monsieur, c'était vendu dans les tests comme ça, par un certain Georges Grouard, et la jaquette de Hybrid Heaven, qui est très joli, qu'on apprécie. C'est une espèce de pastiche de Shinkawa.
Un artwork avec des persos dessinés un petit peu.
Mais c'est ce que je dis. C'était du marketing, en fait. Et des clones de MGS, des vrais. Mais il y en a pas, en fait.
Oui, puis Hybrid Heaven, c'était Konami aussi. Donc, c'est un
peu. Oh là là, du coup.
Legit.
PES. PES MGS, du coup.
Ah oui, c'est vrai que, enfin, Splinter Cell, par exemple, qui était vendu comme un peu le concurrent de Metal Gear.
Concurrent, mais pas
ouais, mais tu vois, il y a même eu des petites vannes dans les jeux, en fait, ils se taquinaient gentiment, mais quand tu prends Splinter Cell, ça n'a rien à voir avec MGS.
Ouais, mais là, c'est un peu différent aussi. C'est que là, moi, je dis des jeux que MGS n'a pas été copié. Mmh. Splinter Cell, il a été vendu comme le rival. Et qui avait ses spécificités, qui étaient plus réalistes, qui étaient très américains, machin, tout ça. Alors que là, Hybrid Heaven et Headhunter, c'était des, vous aimez bien MGS? Franchement, achetez, alors qu'au final, je suis d'accord, ça avait absolument rien à voir. Dans les jeux inspirés par MGS, on peut aussi citer les hommages, les pastiches. Il y en a un qui s'appelle Unmetal, mais lui, c'est carrément une parodie, et non pas de MGS, mais des deux premiers Metal Gear. Moi, je connaissais pas son existence, et j'ai appris ça dans le podcast que j'apprécie, La Taverne des Gamers, dans l'épisode 30, pardon, et Kira, il en fait tout un descriptif, et ça, c'est vraiment une vraie parodie.
Ouais, il avait l'air sympa, j'avais vu quelques vidéos, machin, ouais. Ça avait l'air plutôt rigolo.
Plutôt cool, ouais. Dans les hommages, il y a aussi Signalis, mais bon, c'est plus des emprunts à des points précis que vraiment une copie. Alors, comme on le voit, ça fait pas beaucoup d'héritiers pour un jeu qui est si légendaire, mais pourquoi? Alors, est-ce que c'est l'empreinte de Kojima, peut-être, qui est trop présente, trop intimidante? Est-ce que c'est parce que c'est trop dur à copier? Le ton du jeu, l'équilibre entre réalisme et fantastique? L'humour un petit peu particulier aussi, finalement. Au final, on se dit que le meilleur héritier de MGS, c'est Death Stranding. Et donc, il y a que Kojima qui peut faire suite à Kojima. Nico, qu'est-ce que t'en penses de ces raisons? Est-ce que Death Stranding, il y a bien que ce jeu qui est différent, qui est finalement le plus proche de MGS?
Ouais, mais c'est vrai que comme on dit, c'est que Metal Gear Solid, c'est avant tout un jeu Hideo Kojima. Et il est tellement sur la fine ligne entre action, espionnage, nanar, séquence d'humour. Enfin, il y a tellement de ruptures de ton, tellement de trucs différents qui sont amalgamés dans ce jeu-là, qu'à part être dans le cerveau de Kojima, en fait, tu peux pas trop faire ça, quoi. Et après, on aime ou on aime pas. Je dis pas que c'est forcément bien, mais c'est compliqué de le copier, quoi.
Alors, le jeu, il a pas été copié, mais il a beaucoup inspiré, hein. Il a même dégagé des tendances dans l'ensemble de l'industrie. MGS, c'est un jeu qui a marqué par ses choix qui sont radicaux, et ce sont ces choix qui l'ont fait traverser les âges sans prendre une seule ride. Alors, je vais pas lister ces choix radicaux, hein. Je vous renvoie vers notre ouvrage, qu'on a édité.
Ce qu'il y a, il est
et
pas en promo, là.
Je même écrit, je crois pas. Non, c'est spécial.
Achetez-le quand même.
Spécial RPG. Je crois qu'il en reste plus beaucoup. En revanche, vraiment, il va être évidemment réimprimé, ne vous inquiétez pas, mais je crois qu'il en reste pas beaucoup. Alors, la question qu'on va se poser à présent, c'est comment juger un vieux jeu? Est-ce qu'on le juge à l'aune de notre nostalgie, de l'impact du jeu à sa sortie, de la qualité du jeu à ce jour? C'est un vaste débat. Alors, pour MGS et pour ma part, c'est un peu tout ça en même temps. Pour juger MGS, moi, je suis obligé de me fixer à mon souvenir, parce qu'une grande partie du plaisir qu'on peut éprouver quand on joue à MGS, c'est le plaisir de la découverte initiale donc, hein, de l'expérimentation, des différents essais qu'on va réaliser pour voir les limites du jeu. Tu t'en souviens ça, Nico, justement, de jouer avec le gameplay pour se dire, mais est-ce qu'ils ont pensé à ça? Et tu remarques que oui et tout. Et donc ça, c'est un souvenir qui est forcément de la période où tu l'as découvert.
C'est vrai qu'à l'époque, on entendait souvent parler de l'atelier du petit chimiste, en fait, où notamment, tu vois, dans la démo d'MGS2 qu'on avait tous eu et qu'on a poncé, on s'amusait tous à tester toutes les limites du jeu.
Alors, il y a énormément d'idées dans MGS qui sont devenues cultes, hein, des idées qui ont souvent cassé le quatrième mur. Néanmoins, ces mêmes idées aujourd'hui, si elles étaient utilisées par un autre jeu, elles passeraient pour des gros clichés, des idées ridicules, car trop grossières, parce que beaucoup trop évidentes. Alors que quand le jeu est sorti, c'était juste historique, en fait. Et c'est pour ça qu'occulter le contexte de sortie pour juger un jeu qui est aujourd'hui différent, c'est pas une bonne idée. Il faut se rappeler de ce moment-là. Et c'est d'autant plus étonnant que ces idées cultes, donc juste un exemple, le changement de porte-manette pour le Psychomantis, pour donner un exemple, on l'a vu, ces idées, elles ont pas été copiées. Et donc, on a peut-être un début de réponse à la question pourquoi il n'y a pas d'héritier dans MGS. Imiter une idée de MGS, c'est pas possible, car c'est un tour de magie qu'on a déjà vu, dont on connaît déjà la solution. Ça aurait pas de sens et ça serait pas amusant de reproduire cette idée. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, le moment de la découverte de MGS était marquant, et pour juger MGS, il faut se souvenir de ce sentiment de la découverte.
Ouais, et sachant que même Kojima finit par se copier lui-même un petit peu, et
ça marchait.
Avec l'effet amoindri, justement, comme tu en parles, quoi, quand dans MGS 4, on te demande de changer ton port, machin, ça marche plus, parce que tu fais, mec, tu nous l'as déjà fait.
Comment c'est ce qu'il dit, ouais.
Bon. Là, tu fais, non, gros, là, c'est,
je connais, je vois les ficelles.
T'es allé trop loin, tu forces un peu.
Après, alors, l'apport de MGS à l'ensemble du monde du jeu vidéo, c'est difficilement quantifiable. La claque de l'époque, elle était plus qu'énorme. C'était une révolution. Mais ce qui est beau, c'est que MGS a réussi à traverser les générations de consoles et les générations de joueurs grâce à certains thèmes. Par exemple, le thème de la manipulation, le reflet de notre condition de joueur, c'est encore une thématique très pertinente en 2023. Mais même si récemment, on a beaucoup d'œuvres méta, mais comme je l'avais souligné lors d'une précédente émission sur Stanley Parable, les œuvres méta, elles délivrent souvent un message qui est cynique, très critique envers leur industrie, ce qui est pas du tout le cas de MGS, qui le singularise, je trouve, du coup. Mmh. Le méta de MGS parle du jeu, du joueur, de sa place face à l'œuvre, et moins de la place du jeu dans l'industrie. À ce niveau, je trouve qu'il y a que BioShock ou le récent Cocoon, je trouve, qui pourraient être des parents éloignés, des jeux méta qui parlent de la place des joueurs, mais sans le cynisme sur le marché du jeu vidéo. Est-ce que Nico, t'as d'autres jeux en tête, à part ces deux qui parlent, tu vois, de façon assez frontale de la place du joueur, mais sans dire le monde du jeu vidéo c'est nul.
Ouais, bon, c'est vrai que Suda joue beaucoup là-dessus aussi, et comme Kojima, Suda c'est vraiment un mec qui réussit à avoir son style et qui est pas évident à copier.
Ouais.
Mais là où le méta a été à la fois innovant et un peu subversif à l'époque, aujourd'hui on en bouffe à toutes les sauces, si bien que c'est devenu déjà presque has-been et tout en fait, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que ça a plus le même impact, et même ça a été trop exploité, quoi, surexploité. Ouais. Ouais.
Et tu dis subversif, je trouve que les jeux actuels le sont plus dans le sens où ils ont une portée pas un peu sociale, mais tu vois, ils veulent parler de ce qu'est le monde du jeu vidéo, là où Kojima, je trouve qu'il avait pas du tout cette ambition. Lui, il voulait parler de ce qu'est joueur, enfin le jeu face au joueur. Tu sais, il est dans sa tête, enfin dans son délire, à dire mais moi je fais mon œuvre qui parle de ça, j'en suis pas encore à être, tu vois.
Oui, mais c'est vrai que, enfin, nous on a une expression, on appelle ça un truc de petit malin, c'est qu'un mec se prend, enfin, est trop conscient qu'il veut faire le malin. Aujourd'hui, je trouve le méta, c'est trop un truc de petit malin, là où Kojima n'a jamais été là-dessus, quoi.
Ouais,
tu vois, c'était jamais pour du show-off, c'était toujours pour raconter quelque chose, quoi.
Carrément. Bon, on va parler un petit peu maintenant de la bande son. Si t'es chaud. Alors, il y a une grande partie des souvenirs que j'ai sur MGS qui viennent de la bande son. Une OST de ouf, hein, qu'on doit à la Konami Sound Team. Bon, le nom qu'on retient souvent, c'est Tapi Iwase. Alors, ce qui est fort, c'est qu'on peut tous fredonner le thème principal.
D'accord, j'y vais.
Reconnaître une musique d'ambiance de MGS. Et c'est ça le truc exceptionnel avec cette OST, c'est qu'on connaît et on se souvient des thèmes principaux, mais aussi des musiques d'ambiance. Mais avant de vous dire pourquoi, c'est cool, petite parenthèse rapide sur la composition, juste rapide, vous inquiétez pas. Alors, en grossissant très fort le trait, il y a deux façons d'écrire de la musique à l'image. Il y a l'écriture thématique, qui est très mélodique, qui correspond à un perso, un lieu, une idée. Genre, je sais pas, le thème de la Force.
Star Wars, c'est le meilleur exemple, je pense.
Et il y a l'écriture illustrative, qui est plus atmosphérique, qui, le plus souvent, va venir redoubler le gameplay et la narration pour leur donner plus de force et accompagner leur message. Comme son nom l'indique, l'écriture illustrative va venir illustrer. Et donc, le truc exceptionnel avec l'OST de MGS, c'est que les thèmes sont tout aussi puissants que les nappes sonores qu'on peut entendre dans le jeu. L'écriture thématique et illustrative de la bande originale de MGS sont au même niveau. Les deux versants sont aussi efficaces et aussi mémorables. D'ailleurs, pour appuyer ce que je raconte, sachez que le thème principal bien connu du jeu n'est pas utilisé tel quel dans le jeu. Jamais. Il est toujours repris en motif, et uniquement en motif. Dans le jeu, vous pouvez pas entendre le thème d'un trait, comme une piste d'OST avec son début, son milieu et sa fin. Mais ce que vous entendez, ce sont des motifs de ce thème, des portions précises, reprises et arrangées. Je trouve que ça montre bien l'alliance des deux façons de composer, la composition thématique, mélodie forte, illustrative, musique plus atmosphérique. Et dans MGS, c'est ça qui est ouf, c'est que les deux sont complètement mémorable et fusionné. Est-ce que toi, c'est aussi ton ressenti?
Ouais, mais il suffit d'entendre le début d'une percussion, d'un morceau d'ambiance pour se dire, ok, avec ce côté, en plus, presque où ça se fond dans le sound design, ou ce côté-là, tu dis, est-ce que c'est une goutte d'eau qui vient de tomber, ou est-ce que c'était un son de la bande-son? Et ça te crée cette espèce d'enveloppe d'ambiance atmosphérique, ouais, de ouf, quoi. C'est vrai qu'on lui donne pas ses crédits là-dessus, MGS, sur ce côté-là, quoi.
J'irais même plus loin, moi, c'est les menus et les boutons, les trucs qui me trigger.
C'est sound design, le ting ting, tous les bruitages et tout.
Absolument. Bon, on va finir la chronique par deux défauts, hein, mais qui, pour moi, n'en sont pas. Alors, défaut numéro un, pour beaucoup, MGS, c'est un jeu qui parle énormément, trop même. Mais je suis pas d'accord, ça parle pas trop. Dans MGS, la parole est plus qu'importante, elle est fondamentale, c'est pour ça qu'elle est si présente. De la même manière que Kojima a choisi de réaliser ses cinématiques avec le moteur du jeu pour favoriser l'immersion, il a aussi choisi d'utiliser la parole pour favoriser cette même immersion. À l'époque, j'avais pas tilté, mais MGS, c'est un jeu de rôle, enfin c'est un jeu de rôle, c'est un jeu qui est sans icône d'objectif. On sait pas où aller, on nous dit pas où aller, et avec une icône. En fait, pour trouver la prochaine destination, il faut écouter les paroles des membres de notre équipe. Ou mieux, il faut prendre la parole afin de leur demander. On te dit pas où aller, hein. C'est à toi de dire si par exemple tu galères, ben c'est à toi d'aller dans le codec et d'essayer de parler à tout le monde. Et t'as Campbell à un moment qui te dit non mais c'est ça.
Et c'est à droite là, espèce de nul.
L'acte de sauvegarder, pareil. Il faut pas appeler mailing pour user de la parole. Aussi, tout ce qui est tutoriel, c'est la même chose. Ce sont des discussions qui vont nous apprendre à jouer. Enfin, tout ce qu'on nomme aujourd'hui le lore, ben, c'est pas à lire dans des documents, ni à chercher dans l'environnement. Il faut parler et échanger avec les persos pour en apprendre plus. Bon, y a certains qui sont des pipelettes, hein. Natasha Romanenko, la spécialiste des armes, si tu la cherches, laisse tomber, elle va t'assommer. Mais c'est l'idée. Il faut solliciter les autres grâce à la parole pour faire des choses, comprendre des choses et apprendre des choses. Et ça, que ce soit dans le jeu ou hors du jeu. Il y a toujours cette fine lisière hein, avec le quatrième mur qui est questionné ici, comme quand Campbell hein, nous dit d'utiliser la touche carrée. Et là, tu te dis, mais quelle touche carrée hein, moi, je suis censé être un espion, j'ai pas de manette. Et ça, le jeu, il s'en fiche, il le sait, mais il s'en fout. Est-ce que t'es d'accord avec ça? La parole, c'est vraiment quelque chose qui peut être assommant, hein, des gens qui n'aiment pas, qui trouvent qu'il y en a trop. Mais là, pour le coup, quand je l'ai refait, je me suis dit, mais c'est... Et le pire, c'était ça, c'est que y a le manque d'icônes d'objectifs qui est aujourd'hui dans absolument tous les jeux, qui commence à disparaître maintenant, ça y est, Breath of the Wild est passé par là. Et là, en fait, je me suis retrouvé à un moment où j'avais oublié ce que je devais faire. Et en fait, le seul moyen pour moi de trouver ma destination, c'était d'user la parole et parler.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que le codec, on en parle souvent quand on parle de Metal Gear, ce codec, ça reste... espèce de menu visuel novel inclus dans le jeu. Et dans quel jeu t'as eu un accès constant à, je sais pas, 6-8 personnages et que tu peux appeler avec qui tu peux discuter à n'importe quel moment? Ça, y en a pas, quoi.
Ouais. Après, on pourrait même aller plus loin. Bon, c'est qu'une chronique top 10 all time, mais y a même les révélations qui se font par la parole, qui se font souvent par le codec et tout. C'est que ça parle, mais c'est très important et c'est fondamental dans Metal Gear Solid. Second point qui est souvent considéré comme un défaut, c'est l'AVF. Et là, bon, je comprends, ok, la VO de David Hayter, elle est meilleure, je sais, mais j'y peux rien, je kiffe trop la VF. Elle transforme carrément le propos du jeu, hein, lui donnant un aspect nanar, hein, pas du tout voulu par Kojima, je sais. Mais comme pour Shenmue, qui est aussi dans mon top 10 all time, hein, je vais pas vers la VO. Alors la VO dans Shenmue, c'est le japonais, mais moi j'y joue à Shenmue en anglais. Et c'est la même chose pour les films de mon enfance, hein, Ghostbusters, Star Wars, Retour vers le futur, Indiana Jones, les Stallone, les Schwarzy. Je suis désolé, mais tout ça, moi, j'y joue et je les regarde en VF. J'ai l'impression que ce qui est important, c'est quand on découvre les œuvres, et c'est ça qui va figer un petit peu le souvenir et une émotion. Et ça, ben, malgré la logique et la cohérence et tout ce que tu veux, c'est plus fort que nous.
Ouais. Et c'est vrai qu'on a, sans parler snobisme, mais aujourd'hui, c'est presque mal vu de pas jouer en VO aux œuvres et tout. Et c'est vrai que c'est souvent la version la plus aboutie parce que c'est celle sur lesquelles la créateur ont le plus d'input, quoi. Mais faut pas oublier qu'il y a des très bonnes VF qui existent. On le voit encore, notamment, je sais pas, dans les films d'animation Pixar ou quoi.
Oui.
Et il y a rien de mal à jouer en VF, quoi.
C'est vrai.
Ça permet aussi d'avoir des fois l'esprit un peu plus concentré sur autre chose plutôt que d'écouter de l'anglais ou lire des sous-titres. Hein.
Et aujourd'hui, c'est vrai que les VF sont de très bonnes factures, mais là, pour le coup, c'est vrai que la VO elle est meilleure. Et même comme je disais, ça donne un aspect au jeu, une couleur au jeu qui n'est pas bonne.
Ouais, et puis ce côté nanar, même dans la VO, je pense qu'il existe aussi, quoi.
Enfin, ouais, mais là, ça,
l'espion avec sa voix un peu comme ça et tout. Enfin, c'était déjà surjoué de base aussi, même si.
Après, la VF,
elle est ultra plus caricaturale. C'est sûr.
Puis il y a des punchlines, quoi, en VF. Il y a deux, trois trucs. Bon, en conclusion, je vais vous dire que c'est pas évident de trouver du neuf à raconter sur des jeux qu'on adore, sur lesquels on a écrit des bouquins. On a peur de radoter. Et rejouer aux vieux jeux, comme ça, c'est se confronter aussi à une désillusion potentielle, hein, et réaliser que finalement, ben, c'était pas aussi bien que ça. Mais bon, vous allez le constater avec MGS, avec, ben, le petit récap du top 10. C'est pas le cas. Tout va bien.
Ah, t'as eu chaud.
Donc, petit récap rapide, vous inquiétez pas. Le top 10 all time, première position FF7, il n'a pas bougé. Seconde position, un trou, on sait pas qui est là.
Je sais.
Troisième position, Metal Gear Solid, il n'a pas bougé.
Ah, donc,
voilà, c'est bon, vous inquiétez pas.
Trop bien.
Non, j'ai bluffé avant l'émission, j'ai dit il a dégringolé, mais non.
Parce que je voyais tous passer dégringoler les uns après les autres, là.
Non, Metal Gear Solid, troisième, il n'a pas bougé. Shenmue, il est monté. Quatrième. Chrono Trigger, il est monté. Cinquième. Returnal, sixième. Entrée dans le top. Septième, Majora's Mask, il est descendu. Huitième, Resident Evil Rebirth, il est descendu. Et neuvième et dixième, personne. Donc, il ne reste que trois trous à ce top 10 all time.
T'en vois le bout?
J'en vois le bout, ouais. Baten Kaitos qui est sorti. Et peut-être aussi avoir certains épisodes où il va y avoir les nouveaux entrants, c'est-à-dire que des jeux qui étaient à la lisière du top 10 all time, et là, est-ce que c'est le moment de les faire entrer? Allez, quelques indices sur les trois derniers. Il y a une série Netflix, là, récente, sur l'un des jeux qui va être traité. Un remaster Sony, ou au moins un jeu à 60 FPS qu'on attend beaucoup sur l'un de ces jeux. Et un JRPG avec une Dream Team. Voilà.
Bon, donc, je pense que c'est assez clair.
C'est pas dit, hein. Regarde, il y a la série Onimusha.
C'est ça, j'allais faire la balle. On sait que tu adores Onimusha. Je l'ai dans mon top 10.
Donc voilà, pour Metal Gear Solid. On a appris un truc il y a pas longtemps sur MGS, là. Un petit visuel sympa.
Ouais, alors c'est marrant parce qu'il a tourné ce week-end. Le visuel, en fait, c'est que des gens ont dézoomé, en gros, sur tout le level design, tout l'univers du jeu, en fait, qu'on arpente, qui modélise en 3D. Et en fait, on se rend compte que l'univers est pas si grand que ça. Non. Et que c'est, en fait, ouais, des couloirs, un ascenseur, couloir, ascenseur, boum. En fait, le terrain de jeu en lui-même n'est pas gigantesque.
Oui.
Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me choque à chaque fois qu'on joue MGS 1, c'est que t'as tous ces moments cultes dans la tête, et en fait, c'est qu'ils sont juste en train de s'enchaîner les uns les autres, quoi.
Ouais.
T'as pas de temps mort, t'as pas de moments de creux entre deux séquences.
T'as pas mal de backtracking. Et ouais. Donc, des moments où, en fait, tu dois revenir sur tes pas, mais ils sont toujours très bien faits, je trouve, parce qu'ils ont toujours un bon objectif. T'as toujours ou une pression de temps, ou une pression, justement, de mission, où
tu vas chercher
quelque chose, où tu vas chercher quelqu'un.
Et puis, c'est pas très loin, du coup, vu que tout est ramassé.
Et non, ouais, c'est vraiment, vraiment pas très loin. Donc, c'est un backtracking qui est pas spécialement dérangeant, et qui, voilà, 1998, aujourd'hui, ça reste top 3, quoi.
Ça, et ouais, c'est vrai que tu dis la difficulté de parler de MGS, qu'on en a déjà parlé et tout, c'est clair. Mais, c'est vrai qu'MGS, dans l'inconscient collectif, c'est, on en parle, le scénario, les idées méta, Kojima et tout, mais, la musique, tu l'as dit, la réalisation technique, enfin un jeu PlayStation tout en 3D, enfin à part Vagrant Story, il y a aucun jeu sur PlayStation qui est aussi ambitieux technologiquement. Et ça, c'est des choses aussi auxquelles voilà, il faut donner du crédit à l'équipe là-dessus, quoi.
La réal de ces fameuses cinématiques, non, il y a vraiment pas mal de trucs. En tout cas, si vous êtes friand de Metal Gear Solid, n'hésitez pas.
Jeu culte par excellence, quoi.
Je veux dire, si jamais vous voulez en savoir plus. Bon, allez, on se fait un petite pause, petite interlude, petite top 3, qui est de rigueur et qui va être une passerelle, on va dire, vers ta chronique, parce que c'est le top 3 des absents des Game Awards. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les absents des Game Awards?
Eh bien, écoute, on a regardé un petit peu la liste des nommés et on s'est dit, tiens, il manque tel jeu là ou tel jeu là que j'aurais pu, moi, imaginer à cette place.
Ok. J'essaie de voir si comment on pourrait le comprendre différemment, mais voilà.
Je pense pas, c'est plutôt clair.
Plutôt clair.
Et alors, ça va teaser un peu deux trucs qu'on va voir ensuite dans le reste des nommés.
Allez, top 3 des absents des Game Awards, tu commences.
Je commence avec Assassin's Creed Mirage. Alors, parce que pour moi, déjà, il a zéro nomination. Donc, c'est la première fois qu'un Assassin's Creed, l'année où il sort, n'est pas nommé dans les Game Awards, au moins une fois quelque part.
Ouais, quand même.
Je pense qu'il aurait peut-être mérité direction artistique ou musique. Après, bon, voilà, les goûts et les couleurs. Je sais que la musique, tu vois, Starfield ou Hogwarts Legacy, peut-être aurait pu y être aussi.
Bah, c'est trop bien. Parce que moi, c'était ma mention. Okay. Mirage. C'était justement l'OST de Eskimo. C'est dur à dire. Mais, incroyable OST. Et je suis d'accord avec toi, il méritait
même
clairement.
La DA, quoi. Elle est vraiment canon. Bon, après, voilà, ceux qui sont nommés aussi méritent leur place, hein.
Oui. Non, mais top 3, je suis d'accord. Mon top 3, moi, c'est Star Ocean 2, The Second Story R, en direction artistique. Et là, c'est un petit twist, parce que certains vont dire, ouais, mais c'est de la HD 2D Square Enix. Mais justement, je trouve intéressant qu'ils aient réussi, avec cette techno, de trouver une nouvelle façon de l'exploiter et de faire quelque chose qui est incroyable. Franchement... Ouais.
En plus, si je dis pas de bêtises, il est même pas estampillé HD 2D, quoi. C'est juste qu'il reprend le principe, on va dire, les fondements, mais pour le twister, quoi.
Ouais, et vraiment... Alors moi, je suis dessus. Je sais pas si d'ici la fin de l'année, on aura le temps d'en parler en Red Alert, peut-être dans les rattrapages de janvier, tout ça. C'est incroyable, et matez des vidéos si vous voyez pas de quoi je parle, mais la direction artistique et le rendu de ce Star Ocean 2, le remake, c'est incroyable, trop beau, vraiment magnifique.
Moi, c'est ce qui me donne envie d'y jouer, en tout cas.
Donc, et pourquoi pas, tu vois, est-ce que les remakes doivent être dans les nommés, je ne sais pas, mais en tout cas, là, je trouve que son statut de remake et de retwister la direction artistique, je trouve qu'il y avait d'autant plus de raisons de le nommer en DA. Mm. Donc voilà pour mon top 3.
Surtout qu'ils ont refait les chara-design, les portraits et tout, qui sont magnifiques.
Il y a même plusieurs raisons de le nommer dans cette catégorie.
Alors, je fais mon médial canafi, je triche.
Oh, c'est pas beau ça.
Parce que en jeu le plus attendu, j'aurais aimé qu'il y ait DS2, Death Stranding pour 2024. Pourquoi je triche? Parce qu'il n'a pas encore été confirmé pour 2024. Mais nul doute, je crois qu'on y croit tous, en tout cas on l'espère, qu'il y aura un trailer lors des Game Awards avec la date de sortie révélée pour l'année prochaine.
Ça devrait, normalement.
Ça devrait, on espère, on y compte. Mais en tout cas, voilà, j'aurais bien vu dans la liste des 2024.
Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi. Pour mon top 2, moi, c'est Octopath Traveler 2. Mmh. Alors, est-ce que je triche si je donne deux catégories? Parce que je trouve qu'il a, il est absent de RPG et OST. Vraiment, je trouve qu'il est absent sur ces deux catégories. C'est un grand manquement. En tout cas, l'OST de Nijiki, moi, j'en avais parlé dans Red Alert. Elle est incroyable. C'est l'une des meilleures de l'année aussi. Ouais.
J'ai vu plein de gens, comme toi, soulever l'absence d'Octopath.
Donc, Octopath, il avait, je pense, au moins sa place dans ces deux catégories. Et pour le top, et le top 1, la plus
et
grande.
Et le top 1, alors, voilà. Donc là, je vais peut-être tricher aussi. Meilleur jeu indé, je vois, voilà. Il manque Chant of Sinar. Alors, est-ce que Chant of Sinar est un jeu indé? Ben, justement, on va en parler tout à l'heure, de voir la difficulté aussi de faire ça. Mais du coup, j'ai un joker, voilà, Jusant. Je pense qu'il aurait aussi mérité sa place dans les jeux indés, dans les nommés.
Dans le Jusant.
Ouais.
Donc, ça marche.
Pas, enfin, ça dépend là aussi, on va y revenir.
Studio auto-édit.
Ouais, mais bon, la bourse, tout ça, quoi. Est-ce que quand
ah, mais c'est un... on va en parler tout à l'heure.
Ouais, c'est pour ça que je triche.
On en parle tout à l'heure. T'as beaucoup triché là. Tu comme je suis sage. Et moi, là, pour l'instant, hop, la mention, je l'ai mis avec. Moi, j'ai un jeu, trois top. Y a quoi là? Bon, mon top 1, c'est Sea of Stars, qui est absent. Donc, il est nommé meilleur jeu indé, mais je trouve qu'il aurait pu être dans OST, donc l'OST de Eric Brown, qui est incroyable aussi. Et pourquoi pas dans les GOTY, je sais pas. Peut-être. Je trouve que petit manque de Sea of Stars, je l'aurais vu. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus représenté dans l'ensemble de la sélection, même si voilà, il a sa nomination en indé. Donc voilà pour ce top 3. Alors là rapidement, hein, il va falloir nous donner vos top 3 parce que la cérémonie arrivera très bientôt, donc dans la nuit du 7 au 8.
Ouais, c'est ça, dans deux semaines si j'ai pas de bêtises.
Très 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 tard, le matin quasiment pour nous. En tout cas, vous inquiétez pas, dès le lendemain, on devrait le couvrir nous en Red Alert
en pleine forme.
Uniquement, alors je vous le dis maintenant, uniquement au format audio, hein, c'est pas du tout parce que vous ne regardez pas nos vidéos sur YouTube, c'est parce que voilà, Ken n'est pas là, donc on fait sans et on fera juste une version audio pour ce récap des Game Awards on va continuer à parler dans cette seconde partie de l'émission avec Nico, voilà, comment décrypter les Game Awards.
C'est ça, ouais, on va essayer de comprendre un petit peu les nominations, les tendances qui s'en dégagent, le profil type même du GOTY, hein, qu'à quoi il faut s'attendre cette année. Donc petit rappel, hein, avant que j'entende certains râler, les Game Awards, c'est une cérémonie, on y accorde l'importance qu'on choisit de lui donner, voilà, ni plus ni moins. Si pour vous c'est nul, ben voilà, vous y n'en parlez pas et n'en traitez pas. Si pour vous ça a une importance, ben on en discute. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, aujourd'hui c'est celle qui atteint quand même la statue de popularité qui en fait l'équivalent des Oscars ou des Césars dans le jeu vidéo. Là-dessus, là aussi, c'est pas quelque chose tellement qui est à débattre, quoi. Alors il y a quand même une particularité des Game Awards, c'est que c'est aussi le terreau d'annoncer de trailers. Là aussi, ça se fait pas trop dans les autres cérémonies. C'est un moyen malin de ramener des gens et ça semble fonctionner parce que les audiences progressent quand même d'année en année, quoi. Alors on va pas parler de toutes les catégories, mais seulement de celles qui, pour lesquelles je juge qu'il y a quelque chose d'intéressant à en dire. Et on va omettre aussi, hein, tout ce qui concerne l'e-sport et tout, parce que j'y connais rien du tout et je crois que c'est pas trop spécialité non plus, donc
non plus, mais j'aurais bien dégagé tout ce qui était e-sport, moi.
Pourquoi pas faire une cérémonie à part, je trouve, est-ce que c'est vraiment
Ben là tu vois clairement que Jeff Keighley et l'organisation ont choisi d'intégrer l'e-sport pour recruter un maximum de gens pendant le live, pour les votes, parce que bah, c'est les communautés les plus actives, les plus nombreuses.
Il y a au moins 7 ou 8 catégories, je crois, qui sont dédiées là-dessus.
Ouais. Mais elles sont tellement disparates entre elles. Donc, tu prends le meilleur joueur d'e-sport qui va, en fait, célébrer le meilleur joueur d'un jeu qui n'a rien à voir avec un autre joueur. Ça fait bizarre, tu vois. C'est des sportifs professionnels qui ne sont pas du même sport.
Ouais,
et donc, en fait, finalement, là... tu vois très clairement que c'est du coup allez, tout le monde regarde les Game Awards au même moment pour que éclater tous les scores d'audience, quoi.
On est d'accord. Donc on va commencer évidemment par le jeu de l'année, donc le GOTY. Alors juste pour rappel, hein, les nommés, on a du Spider-Man 2, du Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Wonder, Alan Wake 2, Resident Evil 4 et Baldur's Gate 3. Alors déjà, niveau profil type, hein, du nommé, c'est du triple A, on va pas se mentir, et c'est compréhensible, hein, vu l'année qu'on a eue. C'est vrai que les jeux indés arrivent à surnager quand il y a peut-être un niveau de compétition moindre, comme l'an dernier avec Stray peut-être, mais c'est vrai qu'une année aussi riche en termes de triple A, finalement le résultat est qu'on est que du triple A à la fin, ça se comprend, quoi.
C'est dommage.
C'est dommage
parce que il Stray, un double A avec Plectel l'année dernière... qui montrait
je dis pas que c'est injustifié,
une certaine mais tu vois, c'est ça aurait pu être sympa qu'il y en ait un ou deux.
Ils prennent toute la place, que ce soit en termes de communication, en termes d'ampleur.
Ce que tu veux dire, et je suis d'accord, c'est que en fait c'est le profil de l'année qui est visible dans ces nommés. C'est que là, il y a eu une année 2023 avec tellement de gros jeux, tellement de triple A que finalement, il y a que 6 places.
Les places sont chères, quoi. Donc, on a 3 jeux japonais, 3 jeux occidentaux. Hein, okay. Là-dessus, voilà, de la parité est respectée. 2 jeux Nintendo, quand même. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, plutôt cool, plutôt à signaler.
Ah, tiens, toi aussi.
On a gagné. 1 jeu Sony et aucun jeu Xbox. Il y a deux jeux qui sont en full des maths. On en a parlé lors de la chronique Alan Wake 2. Donc Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3 ne sont pas sortis en physique, mais Baldur's Gate 3 va arriver avec une version collector plutôt stylée.
Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis, c'est deux jeux initialement full des maths.
C'est un peu le turfu, quoi, les gars, qu'on soit deg ou pas. Un jeu indé, donc le jeu de l'Ariane Studio, Baldur's Gate 3, là aussi, on va en parler plus tard. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de jeu clivant cette année. C'est vrai qu'on avait eu du Red Dead 2 ou du Death Stranding nommé les années précédentes. C'était des jeux clivants et d'ailleurs qui n'ont pas gagné. T'es d'accord là-dessus?
Ouais.
C'est des jeux qui ont fait plutôt l'unanimité.
Il n'y a pas de jeu clivant, c'est que des jeux très populaires. Après, on va parler à la fin du GOTY
On n'a pas fini, ouais, sur le GOTY. Tu me diras si jamais on n'a pas...
Non, je trouve que... Après, est-ce que c'est le reflet aussi de l'année, encore une fois, qui roule surtout par les grosses sorties du début, milieu et de fin d'année? Ouais, je trouve que c'est un bon reflet, quoi.
En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont râlé en disant « Ah, c'est que des suites, c'est que des franchises à succès. Ouais. » Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucun nouvel épisode, et c'est vrai que c'est des suites, mais bon, quand même, 12 ans d'attente entre Alan Wake 1 et 2.
Ouais.
23 ans et un nouveau développeur entre Baldur's Gate 2 et 3.
C'est vrai.
11 ans depuis le dernier Mario 2D, on en parlait dans ma chronique de Mario Wonder. 18 ans entre RE4 et son remake, bon voilà, c'est pas non plus... la Spider-Man 2, c'est lui qui est le plus récent, donc le précédent épisode a 4 ans. Donc que des suites, c'est vrai, mais bon, faut quand même relativiser un petit peu, quoi. Mm-hmm. Des surprises, hein, c'est vrai que je trouve qu'il y a deux jeux qu'on n'aurait pas forcément pu imaginer en début d'année qui étaient présents dans la liste, Baldur's Gate 3 et Alan Wake 2, t'es d'accord, qui aurait pu le prévoir?
C'est clair que non. Ouais. Mais pour autant, tu vois, Alan Wake 2, je l'attendais, mais jamais j'aurais mis 10 balles dessus.
Spidey, Zelda, je pense qu'on se doutait bien que ça finirait par y arriver, mais c'est de là.
Surtout, vu l'année, et tu vas parler des absents, mais genre Diablo 4 et Starfield.
Ouais.
En amont, sans connaître la qualité des jeux, on aurait plus misé sur ça.
Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une petite prime à la nouveauté? Et là, je vais me tirer une balle moi-même, parce que c'est vrai qu'il y a, sur ces 6 nommés, il y en a 3 qui sont sortis le mois précédent les annonces. Donc vraiment, on est sur la nouveauté. C'est vrai que t'as la mémoire qui est plus fraîche sur les trucs que tu viens de jouer. Et moi-même, dans mon top 3 des manquements des jeux indés, c'est des jeux qui sont sortis entre octobre et novembre, quoi. Donc,
c'est vrai qu'on a la mémoire courte et les jeux qui sortent proches de la cérémonie sont souvent un peu plus mis en valeur. C'est là où tu vois où l'année, c'est l'année dernière, Elden Ring a été malgré tout nommé jeu de l'année.
Ouais.
C'est vraiment qui l'a marqué, quoi. C'était important.
Et c'est vrai qu'on en parlera peut-être pour les perdants. C'est peut-être aussi dû à cet éloignement dans le temps, quoi. Au niveau des constructeurs, donc je dis quand même grosse année pour Nintendo quand on regarde les nominations au global. Hein, Nintendo, t'as du Mario et du Zelda, c'est sûr, mais t'as aussi du Pikmin 4, du Fire Emblem Engage, du Advance Wars 1 et 2. Au final, Nintendo, c'est celui qui a le plus de nominations, donc 15 nominations. Juste derrière, on a Sony avec 13 nominations et Xbox avec 10 nominations, donc qui est troisième. Et donc, aucun jeu Xbox dans cette shortlist des GOTY. Alors, est-ce qu'on peut parler de malédiction des rachats pour Xbox? Ils rachètent Bethesda, le premier jeu Arkane qui se loupe, ça tombe un peu pour leur pomme, c'est Redfall, c'est ça?
Ouais.
Bethesda Softworks, hein, qui aligne les jeux cultes, Fallout 4, Skyrim et tout, bam, Starfield sort sous le drapeau Microsoft, c'est celui qui peut-être va le moins enthousiasmer les gens, même si moi j'ai trouvé très très cool. Et là, bam, tu rachètes Activision, le premier Call of Duty qui se fait méga déchirer par la critique, Modern Warfare 3, c'est après le rachat. Évidemment, ils y sont pour rien, parce qu'ils avaient aucun, ils ont eu aucun impact sur le développement de ces jeux. Mais petit esprit de malédiction, on se rappelle de Rare aussi, une fois le rachat, ça a plus été la même saucisse.
Moi, je crois pas au Microsoft bashing, je pense juste que c'est mauvais timing, quoi.
Après, il y a aussi des histoires de flair et de gestion qui c'est pas que de la malchance, c'est aussi peut-être que t'as le flair qui est pas forcément là où il faut, que tu rachètes les gens, quand ils sont plus forcément au top.
Ils ont pas racheté Activision Blizzard tel un animal blessé, mais ils étaient pas au top de leur forme et c'est pour ça que on va dire qu'ils ont eu un prix. c'était pas le Black Friday, mais je pense qu'Activision Blizzard au top de sa forme, si tu le rachètes pas, parce que déjà d'un ils en ont aucune envie et peut-être qu'il faudrait aligner encore plus de milliards. Donc ça aussi, tu as raison, une logique.
Les perdants, on en parlait tout à l'heure, il y a forcément des perdants dans toutes les cérémonies. Hogwarts Legacy, 0 nomination, aucune, nada, que dalle.
Oui.
Un jeu sorti en début d'année, est-ce que ceci explique cela? Parce que moi j'en garde quand même un bon souvenir, je l'ai plutôt apprécié et j'aurais pas été choqué qu'il soit nommé dans plusieurs catégories. Est-ce que t'en penses, toi? C'est qu'on l'a un petit peu oublié, ça y est?
Franchement, je l'explique pas, d'autant plus que les Game Awards sont quand même, tu vois, une cérémonie qui va célébrer les jeux les plus populaires, parce que en fait, comme la nomination se fait, on l'a vous l'a expliqué dans le précédent Red Alert, se fait sur le nombre de journalistes qui votent pour le même jeu, plus les journalistes votent pour ce jeu, plus t'as de chances d'être nommé puis de passer les deux brassages. Ouais. Là, c'est quand même un jeu qui a été fortement populaire, donc vraiment je l'explique pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi il a pas été justement plébiscité.
Après voilà, faut pas, c'est peut-être le septième, hein, celui qui arrivait juste. Peut-être, c'est vrai, comme ouais. On dit, c'était une année très très, il y avait beaucoup de concurrence et notamment d'autres perdants, on va dire, dans la liste du GOTY. Il y a pas de Starfield, pas de Diablo 4. Diablo, c'est quand même une licence culte du jeu vidéo. Pas de FF16 non plus. Donc on voit que le niveau quand même peut-être cette année était trop élevé, quoi.
Après FF16, Starfield, Diablo 4. Ont déçu. J'ai pas l'impression que Hogwarts Legacy, au moment où il a sorti, ludiquement, il a déçu. Enfin,
je pense même que ça a été une agréable surprise.
Ça a été une bonne surprise pour pas mal de monde. Il s'est bien vendu. Ça n'a rien à voir. C'est, même si on, voilà, les GOTY, là, les nommés du jeu de l'année sont que des jeux qui se sont bien vendus et qui sont populaires. C'est important aussi pour le profil, hein, de la cérémonie. Mais c'est pour ça que je l'explique pas. Tu vois, Hogwarts Legacy, jeu bizarre.
On va faire un petit topo Metacritic. Est-ce que les nommés du GOTY reflètent un petit peu ce qui s'est passé sur Metacritic? On voit que ça reste quand même cohérent. Donc, c'est-à-dire que les jeux nommés ont été des notes au moins égales ou supérieures à 90. Donc, c'est quand même des grosses notes.
Lourd.
Sauf Alan Wake 2, sur PS5, il a eu 87. Sur PC, 89. Mais sur Xbox, il dépasse les 90. Okay. On a les deux meilleures notes de l'année, donc Zelda et Baldur's Gate 3 qui ont eu 96, qui sont dans la liste des nommés, donc des GOTY, il y a pas là-dessus pas de surprise. Et les absents à forte note, on en parlait de Metroid Prime Remaster qui a eu 94.
OK.
Là, le débat remake ou remaster, est-ce qu'ils ont leur place, on le traitera peut-être un jour.
Ça serait encore plus contesté, je pense.
Street Fighter 6 qui a même 92 en Metacritic, qui n'apparaît pas dans le nommé du GOTY. Sea of Stars, tu en parlais, 91. Et
qu'est-ce qu'il y a
même, grosse note, et Diablo 4, 91 aussi.
Ah ouais, Diablo 4, il est si.
Et Diablo 4, il y a eu de la déception, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas joué, c'est plus sur le volet jeu service, sur le première extension.
D'accord.
Pas tant sur le jeu à sa sortie que sur ce qui a été développé la foulée, quoi.
Ouais, tu vois, j'avais ce sentiment.
Ouais. On termine sur les GOTY avec notre pronostic. Alors, moi, je vais pronostiquer le seul jeu que je n'ai pas fait de la liste, Baldur's Gate 3. Donc, j'ai fait les 5 autres. Mais j'ai l'impression qu'il mérite et je les vois tellement les mecs, tellement ravis de cette renaissance de la série que ça a l'air d'être un petit peu la voie pavée pour lui. Mmh. Toi, Matt, tu as joué aux 6 jeux, non?
Ouais. Baldur's Gate 3. Je pense qu'il va qui va rafler la mise.
Bon, celui qu'on a le moins joué de.
Ouais. Ouais. Mais je trouve qu'il est méritant. Je trouve que c'est bien aussi un jeu de rôle un peu à l'ancienne, mais pour autant extrêmement novateur parce que dans le scope qu'il propose, enfin très 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 riche. Non, ouais, je pense que c'est Baldur's 3. Je serais étonné que ça soit un autre. J'imagine des fois Zelda. Je me dis, Tears of Kingdom peut le prendre.
Je pense que Zelda, il paye, entre guillemets, le fait que Breath of the Wild ait été GOTY et que les gens vont se dire, bon, c'est bon, t'as eu ton GOTY il y a 6 ans, place à la nouveauté, quoi.
Ouais, mais Elden Ring, hein, il a pris. Hein.
C'est vrai.
Alors que...
Sekiro l'avait eu quelques années avant.
C'était quand même... S'il y a bien deux jeux FromSo, entre guillemets, récents, qui ont des profils extrêmement différents, c'est bien... Sekiro et Elden Ring, donc ça peut aussi s'entendre.
On va se diriger vers la catégorie Best Game Direction. Alors, j'ai traduit un peu l'intitulé, enfin le petit laïus dessus pour voir ce que ça veut dire. Donc, c'est ce prix récompense une vision créative et une innovation exceptionnelle en matière de direction et de conception de jeu. Alors, on va en parler. Je me demande un peu quel est le but de cette catégorie. Parce que là, bon, là, dans celle-là, il y a juste 5 nommés. Donc, il y a que dans le GOTY où il y a 6 nommés. Donc là, il y a 5 nommés. Les 5 sont dans la liste du GOTY. Mm-hmm. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une redondance là-dessus? Est-ce que c'est pas tout bêtement une espèce de prix de consolation?
Prix
avoir,
jury de Cannes.
Ou pas, parce que voilà, quand il y a des années où il y a un vainqueur clair, ben, le jeu rafle les deux. On a par exemple eu Elden Ring l'an dernier qui a eu les deux, The Wards. Il y a 3 ans, The Last of Us 2 a eu les deux aussi. Par contre, quand il y a peut-être un GOTY qui est moins affirmé, ben, tu peux faire un peu meet et partager, tu vois. Il y a 2 ans, It Takes Two a eu le meilleur jeu et Deathloop, la Best Game Direction. Mmh. Il y a 4 ans, Sekiro GOTY, Death Stranding, Best Game Direction.
Ah ben, là, je les comprends.
Tu disais, voilà, le côté Grand Prix de Cannes, c'est un peu la médaille en chocolat, quoi.
Peut-être, mais là, quand Deathloop et Death Stranding prennent la meilleure réalisation alors qu'ils sont pas GOTY, là, pour le coup, je comprends, parce que moi, cette catégorie, je la prends vraiment comme la meilleure direction, par exemple, la plus grande vision d'auteur, alors qui devrait célébrer le Game Director, la grande figure de proue, mais aussi le studio. Tu vois, finalement, le GOTY, c'est le jeu, le meilleur jeu, le produit fini tel qu'il est, et la seconde catégorie, pour moi, c'est la plus grande ambition, celle qui porte le plus, pas plus grande ambition en termes de force, mais en termes d'ampleur, mais en termes de direction artistique, de direction de game design, celle qui est le plus affirmée. Là, par exemple, moi, c'est Alan Wake 2. Je comprendrais pas que ça soit autre chose.
Ok, je vois la nuance. Un peu, du coup, ben, comme aux Oscars, où t'as meilleur film et meilleur réalisateur.
Et c'est
et
ça.
Parfois, voilà, t'as cette distinction.
Moi, j'aurais apprécié que ça y ait cette distinction. Alors, ça serait compliqué, je pense, de dire meilleur. Tu vas signer une personnalité, par exemple là désigner Sam Lake,
meilleure vision d'auteur,
mais célébrer l'équipe. Mmh. Tu vois, sur Deathloop, Arkane Lyon, avec qui a pourtant Ndinga Bakaba, qui est une figure connue, mais tu vois, tu vas célébrer et récompenser la vision d'auteur et le studio, les gens, alors que le GOTY, tu vas célébrer l'œuvre, l'art, on va dire. Et là, je pense que ça, on aurait pu avoir une distinction claire, quoi.
Je vois la nuance, ouais. Best narrative ensuite, donc best narrative, c'est pour une narration et un développement narratif exceptionnel dans un jeu. Donc là, je lis la quote du site. Là, est-ce que c'est cette award, c'est pas aussi que une preuve que le regard sur le jeu vidéo a changé? Pourquoi, par exemple, tu n'as pas de award de best gameplay, tu vois, le meilleur gameplay, ou la meilleure idée de game design, par exemple, ça rejoint un peu ce dont on parlait. Pourquoi il n'y a pas le award du meilleur level design? Ça, c'est Sam Barlow qui est en jeu, donc le créatif qui est derrière Her Story, derrière Immortality. Il est en train de jouer à Zelda Tears of the Kingdom en ce moment, et sur Twitter, il a notamment dit, ben, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un award du meilleur level design, parce que Zelda l'aurait mérité. Donc, voilà, c'est vrai que, est-ce que best narrative, finalement, ça revient pas à l'équivalent de meilleur jeu? Parce qu'on se rend compte que sur les trois des cinq nommés en best narrative appartiennent aussi à la catégorie du GOTY, en fait.
Okay.
Donc, est-ce qu'on se dit pas, c'est une vision du jeu vidéo ou c'est la narration qui prime, finalement?
Ouais, alors là, moi, tu l'as un petit peu résumé, et c'est ce que je dirais, c'est que la best narrative, en désignant un point précis d'un jeu, c'est ce que je ferais sur toutes les catégories. Et ouais. C'est le problème des genres et un souci majeur, et c'est, il faut dégager tous ces genres remplacer tout par meilleur game design, meilleur scénario, meilleur level design, et il y a aucun problème.
C'est plus logique.
Et c'est carrément logique.
Mais bon, enfin, tu vois, Hollywood le fait pas non plus dans les Oscars. T'as la meilleure photo, par exemple, t'as quand même le meilleur acteur, mais t'as pas le meilleur opérateur cam, ou ce genre de choses, quoi.
Bah, t'as le meilleur effet spéciaux, t'as le meilleur.
C'est vrai.
Si, moi, je trouve que c'est plus logique. T'as pas, si je dis pas de bêtises, t'as pas la meilleure comédie, la meilleure film d'horreur.
Au Golden Globe, ils ont une distinction drama comédie, mais c'est vrai qu'aux Oscars, effectivement, ça serait plus logique d'avoir cette approche.
C'est complètement cake. Enfin, moi, je trouve ça. C'est pour pas dire, c'est pas complètement con. Moi, je trouve que c'est une aberration.
Surtout qu'on va en parler plus tard. Les catégories par genre, ça a plus tellement
de sens. Ça n'a plus de sens. Ça ne marche plus.
Donc, j'ai dit, il y a quand même best narrative. Donc, on n'a pas cette distinction. Level design, gameplay, oui. Alors qu'il y a quand même le award meilleur score et musique, donc qui, à la fois le côté musique exceptionnel, mais aussi les chansons originales que tu peux intégrer dans ton jeu. Donc là, c'est marrant, tu mélanges le côté compo et la sélection musicale. Est-ce que c'est pertinent?
Peut-être pas.
Et tu as aussi le meilleur design audio. Donc pour la catégorie son, t'as quand même deux awards bien distincts. Ça,
c'est un peu
plutôt,
le bordel, je trouve.
Plutôt cool. Mais meilleur design audio, voilà, c'est la reconnaissance du meilleur son et de la meilleure conception sonore du jeu. Donc, tu vois, par exemple, un Dead Space, on a souvent loué son sound design, lui, est nommé dans la catégorie de design audio.
Ça, c'est bien. Sur la deuxième catégorie, mais sur la première, je trouve que c'est un peu fourre-tout, quand même.
Aussi, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de voir que le son a droit à deux awards distincts, alors que t'as pas de award de level design, de game design, ou ce genre de choses,
quoi. Oui, ben, ça soulève l'aberration des genres, quoi.
Le meilleur indé, donc on y arrive. Alors, il y a eu un petit pataquès, parce qu'un petit imbroglio avec Dave the Diver, le jeu qui était nommé comme meilleur indé, sachant qu'il est développé et édité par Mind Rocket, une filiale d'un groupe coréen, Nexon, donc c'est un gros éditeur, donc c'est pas tellement un jeu indé. Et Baldur's Gate 3, donc qui est financé par l'Ariane grâce à l'accès anticipé qu'il y a eu il y a quelques années, lui aurait eu toute sa place en indé et il n'est pas noté. Ça montre bien qu'en fait, bah, personne n'est d'accord sur la définition de ce qu'est un jeu indé. Non. Est-ce que c'est un jeu indé par l'esprit, donc petite équipe, qui a une vision marquée? C'est pour ça que moi j'avais triché en mettant Chant of Sinar, j'aurais aimé qu'il soit nommé là-dessus alors que c'est un jeu édité par Focus. Est-ce que un jeu indé, c'est un jeu, est-ce que c'est une vision artistique, quelque chose qui sort des sentiers battus? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une gestion d'équipe? Est-ce que c'est, voilà, une gestion de... Est-ce que si t'appartiens à un groupe, t'es pas un indé? Ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais ça n'a plus de sens aujourd'hui, quoi.
Bon, moi, ça dégage direct. C'est genre, meilleur indé, ça bouge. C'est-à-dire que tu sois un jeu indé à 500 000 euros ou un triple ou quadruple A à 250 millions, ben, tu es célébré pour la qualité du jeu que tu vas fournir Et par exemple pour le meilleur level design, game design, meilleur son, meilleure musique,
voilà,
on s'en fout.
On parle de meilleur jeu vidéo, voilà, on s'en fout. Après,
alors après, c'est vrai que bah si t'as 200 millions pour faire valoir un truc et mettre plus d'équipes et plus de ressources, il y a des chances que tu fasses mieux. Mais c'est même pas dit. Il y a des idées de génie chez les jeux indés, et je trouve que ça dénoterait encore plus la qualité de ces jeux indés qui seraient ici, tu vois, mis en avant. Si par exemple sur la catégorie level design ou idée de game design, tu te retrouves avec un jeu indé et en face de lui un gros triple A, tu pourrais vraiment voir en face de tes yeux que ben finalement c'est pas le budget qui fait tout, quoi.
Ouais, et puis ça briserait ce carcan qui existe depuis des années où on fait des distinctions complètement arbitraires entre un indé et triple A, avec même certaines personnes qui vont te dire les triple A c'est de la merde, je vais louer le jeu indé, et voir le contraire. Là, ça n'a plus de sens.
Après, ça n'a vraiment plus aucun sens. Vraiment, par exemple, Alan Wake 2, enfin, Remedy est indépendant et va chercher des financements absolument partout. Ils ont un jeu Tencent actuellement et ils ont des jeux Epic. Ils ont 4 titres en parallèle, je crois. Mais le studio en lui-même, il appartient à personne.
Ouais, mais certains vont dire il est coté en bourse, donc.
Exactement. Ils ont raison.
Un partage.
Ils ont raison. Et même il y a des financements qu'on peut ne pas connaître, etc., etc. Donc c'est hyper compliqué, ça.
Ouais, ouais. Tout comme tu peux dire, je sais pas, un indé qui fait un prêt à la banque, finalement, est-ce que c'est pas aussi con? Enfin, c'est un peu.
C'est vrai, non, mais t'as raison.
Ce qui est cool, c'est l'award. Alors, on va pas développer, mais t'as un award quand même du meilleur premier jeu, on va dire. Et ça, je trouve ça plutôt cool de dire, voilà, le premier jeu d'un studio. Ça, c'est cool de le mettre en avant.
Ouais, mais ça a déjà fait un peu polémique, parce que le jeu de Cocoon, c'est des anciens de...
C'est
de
pas leur premier Dead, jeu.
Mais c'est le premier jeu du studio.
Ouais, mais là aussi, enfin, comment tu t'assures du pedigree du mec? Tu dis, attends, t'as fait un jeu étudiant, donc c'est pas ton
premier
jeu.
Mais non, mais moi, je suis d'accord avec toi. J'aime bien, moi, cette idée de premier jeu d'un studio. Après,
faut faire des choix pour les awards. Après, on est d'accord.
Il y a forcément des choix qui sont arbitraires, et je pense que pour juger ça, il faut pas être non plus trop dur. Il faut comprendre qu'il y a des choix qui ont dû être faits, et que si c'était à nous, à vous, de faire ces mêmes sélections, ben ça serait tout aussi critiquable, parce que on serait obligé de faire des choix.
Carrément. Meilleure adaptation. Alors c'est une catégorie, je pense d'habitude on s'en fout un petit peu, mais je trouve cette année c'est quand même une grosse année avec des nommés de qualité, ce qui est pas toujours le cas. Castlevania, la série Netflix, le film Super Mario. Qu'on a trouvé très cool, la série Last of Us aussi qui est très chouette, le film Gran Turismo et la série Twisted Metal. Alors Twisted Metal, la série n'est pas encore dispo en France, mais en dehors de ça, alors toi t'as vu tout le reste, moi j'ai pas vu Gran Turismo. C'est quand même une belle année, quoi.
C'est carrément une belle année, et ça va même de mieux en mieux, parce que l'année dernière il y avait Edge Runner, il y avait le spin-off de Cyberpunk.
On voit que c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus au sérieux et qui gagne en qualité.
Et ce qui fait plaisir, c'est de voir en fait que l'ensemble des sélectionnés, c'est de la qualité. Et donc du coup ça reflète d'un plus grand sérieux, justement, sur tout ce qui est cross et transmédia. Et comme on disait il y a pas longtemps, et comme tout le monde le dit, les super-héros en train de s'effacer pour les laisser place à Hollywood, aux jeux vidéo, que ça soit au cinéma ou en série, et on est en train de le voir, quoi.
Quand même, félicitations PlayStation Productions, 3 nommés dans le tas, donc Last of Us, Gran Turismo, Twisted Metal, pour une entité qui est relativement jeune. On voit que le départ est plutôt cool là-dessus, quoi. Meilleur jeu de baston, alors là on va se marrer, les nommés sont Street 6, Mortal Kombat 1, God of Rock, Pocket Bravery et Nickelodeon All-Star Brawl. On a l'habitude de dire que le jeu de baston c'est un genre hardcore qui est plutôt l'apanage de joueurs un peu comme nous, tu vois, des joueurs vraiment de jeux vidéo, des vieux ou qui jouent à plein de trucs un peu trop hardcore. Moi j'en connais que 2 sur 5 dans la liste.
Pareil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que ça veut dire que c'était une année un petit peu faiblarde de la baston? Et je crois pas.
Bah, quand t'as quand même Mortal Kombat et Street 6, c'est quand même quand même des cadors du genre. Bon, Tekken arrive l'an prochain, lui.
Il arrive. C'est un petit peu plus compliqué. Hein.
Je pense qu'il y a aussi peut-être, alors Smash Bros, tu l'as dit tout à l'heure, il a eu des clones aussi, qui a ouvert une autre voie du jeu de baston. Le Nickelodeon, je pense qu'on est carrément dans cette mouvance-là. Il y a aussi le jeu Warner Bros, dont j'ai oublié le nom, qui va se relancer en début d'année prochaine. Multiversity, je sais plus comment. Donc c'est plus peut-être ce genre si hardcore qu'on connaît. C'est vrai qu'on voit que League of Legends, il y a un projet de jeu de baston dans l'univers. Il y a eu le jeu développé par Sam, l'équipe de Guilty Gear, adapté d'une grosse licence japonaise aussi.
Arc System.
On voit que le jeu de baston, ça devient peut-être quelque chose, un genre qui devient un peu plus grand public que ce qu'on imaginait, nous.
Ouais. Est-ce que ça l'est tant que ça, tu vois, le Street 6 qui est même pas dans les nommés,
est-ce que ça
les
vend?
Chiffres de vente, les chiffres de vente qui sont finalement pas si faramineux, en tout cas pour Street Fighter. J'ai peu de doute que Mortal Kombat
l'a déjà dépassé, je
crois. Va tout défoncer, et Tekken va tout défoncer aussi. Donc après, le risque, et comme on disait tout à l'heure, c'est si on vire en fait ces catégories de genres de jeux, il y a certains genres de jeux qui vont être complètement invisibilisés.
Ouais, c'est vrai.
Et ça, après, est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est comme ça? Il faut pour avoir par exemple l'idée de game design de l'année, il faudrait qu'un jeu de baston sorte une super features et au moins.
C'est vrai. On reste sur ces catégories de genre, donc avec le meilleur RPG.
Ouais.
Alors sur les 5 nommés, il y en a 3 dont la qualification RPG peut être discutable, hein, sujet à interprétation. Starfield, j'en parlais dans ma chronique, ouais. FF16, on a largement débattu, et Lies of P. Donc là aussi, voilà, est-ce que cette classification en genre est pas complètement dépassée ?
Complètement.
Après, voilà, Starfield, c'est vrai que Starfield FF16, on peut en parler comme des RPG. Lies of P, voilà, on peut dire Dark Souls aussi, c'est un RPG, donc un Dark Souls-like et un RPG, mais finalement, plus tellement, quoi.
Pff, moi, c'est archaïque. Et vraiment, ça, cette classification en genre, en fait, amène à des discussions qui sont stériles. Donc franchement pour moi c'est morné quoi, c'est que je trouve que ça a pu lieu d'être et c'est limitant en tout, c'est limitant en réflexion, c'est limitant en tout. Ça veut dire quoi ce jeu, c'est un RPG, c'est un mauvais RPG? Attends, ils sont censés être là, c'est censé être la crème. Donc j'espère bien moi que les jeux qui sont nommés, ils sont dans l'avancée, ils sont dans le mixage des genres, ils sont dans la révolution. Là on arrive à un point où en fait on est obligé d'inventer des nouveaux genres, des caractères action, ça ne veut plus rien
c'est
dire.
Vrai.
Donc en fait on arrive même plus à désigner nos jeux. Mais ça vraiment je pense qu'il y a un sujet peut-être que
j'en parlerai. Que moi ce que j'avais dit dans ma chronique Starfield, c'est que le RPG aujourd'hui, il est à la fois partout et nulle part. Oui. C'est-à-dire que on galère à trouver des purs jeux RPG tu vois à mettre en avant alors que des mécaniques RPG sont partout quoi.
Oui, bien sûr.
Meilleur jeu d'action, alors ça va te plaire parce que c'est la catégorie des outsiders. Tu aimes bien les outsiders. C'est-à-dire que sur les 5 nommés, il y en a aucun qui est nommé dans le GOTY.
Okay.
Donc t'as Armor Core 6,
ouais.
Dead Island 2,
ouais.
Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush et Remnant 2. Ce qui est rigolo, c'est que...
Il est où Star Wars?
Il est pas dans un meilleur jeu action, il est dans un meilleur jeu action aventure, je crois.
Tu vois?
Mais c'est voilà. Ce qui est rigolo, c'est que, la contrario, cette catégorie action aventure, donc cette fois, il y a 4 des 5 nommés qui sont aussi nommés dans le GOTY. Donc, sauf Jedi Survivor, 4 sur 5 nommés dans la catégorie action aventure sont nommés dans le GOTY. Ce qui veut dire que, j'en parlais dans la catégorie narration, c'est que j'ai l'impression qu'on met aujourd'hui plus l'accent sur le côté narration et tes éléments RPG pour être le GOTY, en fait. C'est devenu la catégorie reine. Là où, si t'es simple jeu d'action, ben, aucun des nommés dans le jeu d'action n'est nommé pour le GOTY, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue et je trouve que c'est vraiment, alors, ouais, j'utilise le mot, attention, genre, c'est dangereux, quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve ça éclaté. Mais c'est un petit peu comme au cinéma où, en fait, tu vas avoir des genres, qui vont, en fait, driver, des locomotives qui vont amener, en fait, les plus grands réalisateurs à faire ce truc-là. Et tu vois, jamais de comédie, par exemple, qui sont nommés. Et c'est dommage, mais il y a des comédies qui sont complètement révolutionnaires, qui sont complètement qui sont trop bien réalisées, qui sont ouais. qui ont des jeux d'acteurs de ouf.
C'est
le drame.
C'est des questions de mode aussi.
Voilà.
Tu vois, à l'époque, chic dans les années 80, c'était le shoot'em up, le genre roi. À début 90, c'était le jeu de baston. Aujourd'hui, le profil pour être nommé GOTY, il faut être un jeu d'action aventure. Donc un jeu d'action avec des éléments RPG et tout ça quoi.
C'est marrant parce que est-ce que c'est aussi lié à la communication? C'est pas parce que j'aime bien Sony et PlayStation, mais tu vois, eux ils prennent beaucoup de place dans ce qu'est le jeu AAA. Je dis pas que c'est les plus vendus, je dis que c'est les plus représentés qui sont là. Tu vois, wow, The Last of Us 2, ce genre de truc. Et ce qui est à contrario, pas le cas de Nintendo, alors que c'est eux qui font les ventes, c'est eux qui trustent tout à Noël. Pourquoi? Et c'est bien qu'il y ait Mario Wonder nommé, au moins.
C'est vrai.
J'ai trouvé ça étonnant.
C'est vrai. C'est vrai que le jeu de plateforme 2D aujourd'hui, ça fait un peu désuet.
Mais pour le coup, c'est une très bonne chose. Mais le fait que tu vois un petit peu la vague dominante, on va dire, depuis la PS2, PS3, de ces jeux narratifs, et Sony, ils mettent d'autant plus l'accent là-dessus, en termes d'identité, en disant, nous, on est le narratif AAA, ça commence à avoir cette inflexion sur l'ensemble.
Ouais.
Mais ce qui est une illusion, ce qui est faux. C'est pour le coup, bien, je trouve que Mario Wonder sont là.
Alors juste pour la blague, meilleur jeu simulation stratégie, de manière complètement inattendue, il y a 3 jeux Nintendo sur les 5 nommés. Pikmin 4, Fire Emblem Echoes et Advance Wars 1 plus 2, qui auraient pu croire que Nintendo allait dominer cette catégorie.
Incroyable.
Là aussi, c'est un peu fourre-tout quand même, simulation et stratégie, bon voilà quoi.
Ben simulation, alors est-ce que c'est parce que c'est un rapprochement PC, qui sont souvent ensemble, j'en sais rien.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une représentation très Nintendo parce qu'il y avait de la représentation console aussi à...
Ouais, c'est vrai que Pikmin 4, c'est un jeu... Enfin, le Pikmin, c'est un peu difficile à genrer comme...
Non,
comme
mais si par exemple, le nombre de votants de rédaction sont en grande partie des rédactions plus console, il y a... bizarrement, tu vois, genre du Pikmin qui va apparaître, alors que si t'avais consulté des rédactions plus PC, je pense jamais de la vie, il est là.
C'est vrai. Et on termine par le dernier award, alors le jeu le plus attendu, alors pas avec les nommés de cette année, mais on va voir que ceux de l'an dernier, sur les 5 nommés, bah, il y en a 2 qui apparaissent dans le potentiel GOTY de cette année. Donc on voit que les plus attendus, c'était pas forcément ceux qui ont fait le plus école derrière. Donc c'était Zelda et RE4 qui étaient parmi les plus attendus et qui sont aujourd'hui parmi les GOTY.
Ils devraient le faire passer plus pour une blague, ça, parce que le jeu le plus attendu, tu célèbres rien du tout, en fait. Tu célèbres juste de la hype.
Ouais.
Mais néanmoins, je trouve ça très marrant. Tu vois, rien que nous, chez CERD, quand on va faire le podcast Strike sur les bilans, on a une catégorie top 3, une nouvelle catégorie, vous verrez. Et la troisième, c'est les jeux plus attendus. Parce que c'est le jeu du jeu vidéo. En fait, on est comme ça dans l'attente, et quand un jeu arrive, on fait « Ah, ça fait 3 ans que je l'attends », t'es déjà ton regard plus loin sur...
Ouais.
C'est l'industrie qui est comme ça, il faut le savoir, il faut l'intégrer, et faut pas le nier, mais j'espère qu'il y a pas une vraie statuette, tu vois, genre si...
Je sais pas, parce que je crois que Zelda même a été nommé 2 fois de suite parce qu'il avait été décalé du dernier à l'autre.
Après, c'est toujours pareil, c'est que c'est représentatif de quelque chose. Si Zelda, 2 années de suite, est le plus attendu... Ben, c'est que c'est le plus attendu.
Après, alors là, juste pour la blague, c'est vrai que on comparé aux Oscars, or c'est pas pour faire un comparatif ciné-jeu vidéo forcément, mais le cinéma c'est un média qui est plus vieux et donc qui a peut-être eu plus de réflexion sur son propre ses propres cérémonies et tout. Mais imagine les Oscars où t'aurais le film le plus attendu de l'année prochaine, ça ferait chelou.
Non, ça ferait pas bien.
Ouais,
ça
comme on disait, la meilleure comédie ou le meilleur film drama machin, ça serait un petit peu chelou là aussi.
Après, les Game Awards sont jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait, en fait, écoutez l'épisode numéro 5, mais c'était les VGA qui se sont transformés.
Là, c'est les 10 ans, je crois, la cérémonie des 10 ans.
10 ans. Franchement, c'est pas grand-chose, hein. Donc, ça avance aussi. C'est une cérémonie qui est privée, donc qui n'est pas institutionnelle, qui peut être aussi différente de d'autres cérémonies cinématographiques qu'on connaît, où là, il y a vraiment les institutions qui rentrent en compte. C'est des choses qu'il faut intégrer aussi. Le fait qu'il y ait des pubs. Bah oui, il y a des pubs parce que, il faut financer, c'est comme ça.
Ouais, et puis même le côté tu vois les trailers, on n'imagine pas aux Oscars dire entre deux remises de prix, allez, on balance l'exclu, le nouveau trailer de tel film.
Non,
c'est avant trop cycle. Alors sans parler de côté puéril un peu, mais dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on aime bien se hyper, on aime bien toujours avoir l'œil fixé vers l'avenir.
C'est une cérémonie qui est plus spectacle. Par exemple, les pubs, on en voit à la mi-temps du Super Bowl, là où il y a un concert. Au moment du spectacle. Sinon, après, tu vois, c'est le sport. Là, comme tu dis, à Cannes, jamais de la vie, tu vois ça, ni aux Oscars, ni... Enfin, ça ferait vraiment, vraiment trop bizarre. En revanche, dans l'absolu, je pense que ça n'arrivera pas, mais moi, j'aimerais un changement de l'organisation des votants. Moi, je suis plus team jury. Tu vois, un grand game designer ou un grand, même n'importe quel poste, hein, qui va être, tu vois, un petit peu à la main d'un jury qui va lui-même désigner, et pas uniquement des journalistes. Enfin, moi, je vois pas pourquoi il y a pas un script, un scénariste, un game designer, un critique.
Ouais, mais c'est vrai que tu vois l'Académie des Oscars aux US, c'est des gens qui siègent, on va dire, et tout ça, mais ça crée aussi des débats avec des questions de favoritisme, questions qu'ils favorisent plutôt tel type ou tel type de.
Ouais, mais quand t'as un jury de 10 mecs, de 10 personnes, tu les désignes et c'est leur responsabilité et tu peux dire oui mais c'est le choix de ces personnes-là et t'as pas de suspicion, tu dis ils ont fait un choix ou politique ou un coup de cœur tout ça, mais c'est t'as un président des jurys et t'as ces personnes-là qui, tu vois, avec leur sensibilité, ont fait un choix, que t'es d'accord ou que tu l'es pas, tu vas dire est-ce que vraiment il va y avoir, que ça soit comme tu dis les Oscars ou même les Pégases en France, c'est une académie derrière avec des académiciens et allez-y postuler, moi il y a quelques années je l'étais, donc c'est pour te dire que tu vois à un moment qu'est-ce que ça veut dire, et c'est en fait quand tu vas mettre le doute où tu peux avoir un problème.
Ouais.
Pour ça que je préférerais, moi, s'il y avait juste un jury précis, je trouve que c'est plus flamboyant, quoi. C'est sympa d'avoir, tu vois, un président du jury avec, tu vois, 6 personnes, 7 personnes. Moi, je trouve ça. Et puis, moi, je comprends pas que quand t'as 6 GOTY, t'as des gens qui votent qui ont pas joué au 6.
Ouais.
Alors, c'est des jeux vidéo. Alors ça, c'est compliqué.
Oui, parce que c'est plus long que dire je matais 6 films. Mais c'est vrai que ça crée une espèce de déséquilibre, quoi, en fait.
Ben, si t'as pas joué au 6, de facto. T'as pas ton jugement il biaisé quoi. Mais c'est même pas genre.
Tu votes pas celui que tu préfères dans la liste. Tu votes parmi ceux que t'as fait quoi et ceux que tu connais quoi.
Exactement. Et j'avais une question que t'as pas abordée. Pourquoi il y a pas la meilleure console? Pourquoi il y a pas le meilleur éditeur? Pourquoi? Tu vois? Est-ce que c'est une volonté? Tu vois? Alors je vais pas dire politique de pas faire de vagues. Mais on est dans l'industrie du jeu vidéo. T'as des confrontations de machines. Est-ce que là, ça irait trop dans la guerre des consoles puériles?
Je pense, là, c'est trop dans le truc du passé, un peu ancré et tout.
Mais est-ce que c'est pas dommage?
Je sais pas, quelle meilleure console, ouais.
Tu vois, par exemple, moi, je
là,
me souviens...
Là, tu célèbres le jeu en tant que art, tu vois, pas le c'est côté vrai. Hardware avec des boulons et des
c'est vrai,
cartes mères.
Non, mais j'en sais rien, j'ai pas la réponse, je pose juste la question. Je me dis que l'année dernière, je me souviens vraiment que la Switch, elle était au-dessus, elle était dans tous les genres, elle avait réussi, tu vois, à avoir des jeux qui étaient bien, enfin... Je me souviens de l'année dernière comme une année de la Switch de ouf. Cette année, j'en sais rien, tout ça. Mais c'est rigolo, tu vois, de cette question de l'esquiver. C'est sûrement à raison.
Il y a des awards hein, qui jouent là-dessus. Hein. Les Game Cult Awards, par exemple, qui en France a eu un petit retentissement. T'as la catégorie meilleure console, meilleur éditeur. Donc voilà, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il faut pas trop se prendre la tête sur le côté de la légitimité du truc. Ah, eux, c'est pas légitime, c'est des salauds et tout. Une cérémonie, tu accordes l'importance que tu veux. Chacun a des cérémonies. T'as les Golden Stick Awards, je sais pas quoi. T'as les BAFTA, t'as les Pégase, t'as les machins. Ben voilà, faut pas aller plus loin, se prendre plus la tête que ça. T'auras toujours des gens qui vont remettre en question ta légitimité.
Et elles seront toujours perfectibles.
Et voilà.
Mais c'est quelle qu'elle soit, c'est impossible d'avoir.
Tu peux pas faire les cérémonies du monde du jeu vidéo où tout le monde est d'accord, où tout le monde est représenté, tout le monde, ça n'existe pas.
Et ce qui est intéressant, c'est d'en avoir plusieurs et d'avoir en fait plusieurs philosophies, plusieurs physionomies en fonction. C'est ce qui se passe dans le cinéma.
C'est vrai.
La Mostra de Venise, Cannes et les Oscars sont pas au même moment de l'année et sont pas reconnus pour les mêmes choses.
Ouais.
T'as certains qui vont traiter des films avant leur sortie, qui vont être là en tant que curateurs. T'en as d'autres qui vont être là justement pour célébrer le cinéma hollywoodien, tout ça. Et t'as les autres qui sont être plus indés. Et après, t'as les célébrations même de genre. Et donc, non, franchement, dans le cinéma, t'as tout ça. T'as cette variété et t'as aussi le temps qui a passé. Donc, dans le jeu vidéo, on y arrivera. Et ça sera intéressant quand on pourra mettre en confrontation les différents prix en fonction des philosophies de chacun.
Voilà. Mais en tout cas, nous, on sera présents pour les Game Awards pour regarder, enfin, présents.
On sera là-bas.
Par ordinateur interposé.
On n'y sera pas. On vous l'a annoncé tout à l'heure, on va couvrir donc pas en direct, mais au moins les résultats, donc des annonces et des nommés et des gagnants.
Et oui.
Ça sera le lendemain, donc la semaine prochaine.
Le vendredi 8.
Votre Red Alert de la semaine prochaine sera...
Non, c'est dans 2 semaines.
Pourquoi il se passe quoi la semaine prochaine?
La semaine prochaine, il n'y a pas de Red Alert. Parce que sortira du Toulouse Game Show et ça sera trop compliqué pour nous de, d'organiser une émission. Donc, pas d'émission la semaine prochaine.
Petit centimes,
gros centimes.
Gros centimes,
même,
donc on le dit ou pas? Allez, allez.
Vas-y, mets-toi du.
Undertale avec Damien, Fanny Rebillard et Corentin.
Voilà, l'auteur de notre livre Undertale.
Ils seront tous les trois sur un centime, donc on vous laisse pas sans rien. C'est dans 15 jours qu'il y aura le Red Alert sur les Game Awards. Donc j'ai même pas à faire teaser les gens pour rester jusqu'à la fin, mais restez 5 secondes, le temps de vous dire que voilà. Merci pour tout. Pour votre fidélité, tous les likes, les commentaires que vous mettez, pour le soutien que vous nous apportez. Et le soutien que vous pouvez nous apporter, c'est aussi en suivant notre activité éditoriale, en plus des podcasts.
C'est vrai, voilà, acheter des livres. Non, voilà, certes, c'est une maison d'édition avant tout. Hein. C'est vrai que les podcasts, ça prend du temps, mais la majorité de notre temps, ça se consacre à faire des livres. Donc, que ce soit en librairie, que ce soit sur notre site internet, vous pouvez choper nos bouquins. On a plus de 150 refs, donc... jeux vidéo, mais pas que, il y aura forcément un bouquin qui va vous intéresser.
C'est Noël.
C'est le cadeau idéal pour Noël. Voilà.
Pensez-y aux galères. Si vous commandez le 23 pour l'avoir le 24, on fait ce qu'on peut au niveau
ça sera chaud.
De la logistique, mais
ça sera chaud.
C'est compliqué.
Prenez vos précautions.
Donc voilà, merci à tous. Merci Nico pour cette émission.
Merci Mehdi.
Et à la semaine prochaine.
Ou non, attends 2 semaines.